Europe 1.
Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Premier journal qui vous est présenté par Thomas Chenel. Bonjour Thomas.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Cédric Chasseur.
Bonjour Cédric et bonjour à tous. 14 et 15 ans, c'est l'âge des deux jeunes qui viennent de passer leur première nuit en prison pour avoir tabassé à mort Philippe à Grande-Synthe, qui n'était peut-être pas la cible initiale du guet-apens.
À la une également, que voulait l'homme qui s'est introduit au consulat iranien à Paris? Il a pénétré dans l'enceinte diplomatique avec une fausse ceinture d'explosifs.
Et puis un mouvement de terrain sur la 13, c'est l'axe principal entre Paris et la Normandie qui est fermé au moins jusqu'à lundi. De quoi compliquer les retours de vacances scolaire et reporter le trafic dans les communes voisines, vous l'entendrez.
À suivre dans la prochaine demi-heure, la note secrète de Fabrice Lafitte et je crois qu'on va se déhancher aujourd'hui.
Oui, avec le groupe originaire de Los Angeles, Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
On parlera aussi d'immobilier avec Christophe Bordet, ce sera donc après les informations et la tendance météo d'Anthony Kaczmarek.
Avec encore des nuages et des averses sur un très large quart nord-est jusqu'aux Alpes et jusqu'en Île-de-France, plus à l'ouest et plus au sud du soleil, mais des températures froides partout, souvent entre 9 et 19 degrés à peine cet après-midi.
Europe 1.
Beaucoup d'émotions à Grande-Synthe dans le Nord après la mort de Philippe Kopmann.
Une marche blanche a réuni près de 2000 participants hier en hommage à ce jeune homme de 22 ans, tabassé sur un parking et laissé pour mort sur le bitume. Deux jeunes de 14 et 15 ans ont été arrêtés et mis en examen pour assassinat. L'un d'eux a reconnu l'organisation d'un guet-apens via un site de rencontre, mais il se pourrait, Lionel Gougelot, que Philippe n'était pas celui que les agresseurs visaient réellement.
Par le biais d'un rendez-vous fixé sur un site de rencontre, les deux garçons, se faisant passer pour une jeune fille mineure, projetaient d'organiser une sorte d'expédition punitive contre un adulte soupçonné de vouloir abuser d'une adolescente. Avant le monstrueux passage à tabac, ils affirment avoir vérifié cette nuit-là que Philippe, leur victime, était bien celui qui avait répondu à la fausse annonce en l'appelant sur son portable. Alors, rien ne le confirme pour l'instant, d'autant que l'entourage de l'éducateur assure avoir reçu le témoignage d'un homme qui affirme être celui qui avait fixé le rendez-vous, Amine, un proche de la famille.
La personne nous a contacté, elle nous a envoyé un message. Elle va faire une déposition à la police. C'est une personne qui avait rendez-vous avec une fille au même lieu, à la même heure. Et Philippe, il allait juste chez son ami. Il l'a croisé par hasard. Il était là au mauvais moment et c'est tout.
Un témoignage qui là aussi doit faire l'objet de vérifications, notamment des examens de la téléphonie, mais un point essentiel pour les proches de la victime qui refusent l'idée que Philippe aurait pu se laisser aller à des rendez-vous avec une mineure. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Dans le Bas-Rhin, l'assaillant de Souffelweyersheim qui a blessé deux petites filles a été déféré en vue d'une mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. Ses motivations restent floues. Hier, les élèves et les parents se sont recueillis devant le collège en souvenir de Madeleine, une adolescente de 14 ans, victime collatérale de l'attaque. Elle a fait un arrêt cardiaque pendant le confinement des élèves.
Une après-midi d'angoisse en plein cœur de Paris. Un homme menaçant de faire exploser sa ceinture d'explosifs s'est introduit dans le consulat d'Iran.
Il s'est rendu après plusieurs heures de négociations avec la brigade de recherche et d'intervention. Ces grenades étaient finalement factices. Mayalène Trémollet, ce n'est pas la première fois que l'homme tente de s'en prendre au consulat.
Il s'agit de Nicolas Kahem, un franco-iranien d'une soixantaine d'années, né à Téhéran. Il rejoint la France en 1979 pour y poursuivre un cursus universitaire à Paris. En réalité, l'individu était déjà connu des services de police depuis septembre dernier, après avoir provoqué un incendie devant le consulat d'Iran en mettant le feu à des pneus de voiture. Il avait alors été condamné à 8 mois de prison avec sursis, doublé d'une interdiction de paraître dans le 16e arrondissement. Son jugement en appel était attendu lundi prochain. On ne sait pas à ce stade s'il y a un lien entre l'incident d'hier et l'attente de son jugement. Lui a déclaré vouloir venger son frère lorsqu'il a pénétré dans le bâtiment hier après-midi. Muni d'un gilet explosif factice et d'une fausse grenade, l'individu, qui a été interpellé après une négociation avec la BRI, est actuellement en garde à vue. Il doit désormais être interrogé pour expliquer les motifs de son geste, qui reste encore flou pour le moment.
À Toulouse, l'imam du quartier d'Ampalo a été arrêté en vue de son expulsion. Selon nos confrères de La Dépêche, le ministre de l'Intérieur aurait pris l'arrêté d'expulsion. L'imam de la mosquée d'Ampalo est de nationalité algérienne, installé en France depuis 1987. Il avait été condamné en 2022 pour des propos antisémites lors d'un prêche en 2017.
Europe 1, il est 6h et presque 5 minutes. Que s'est-il passé sur l'autoroute A13 aux abords de Paris, l'autoroute très fréquentée qui relie la capitale à la Normandie est fermée dans les deux sens depuis hier.
Et cela risque de bouchonner dimanche, notamment pour les retours de vacances en plein chassé croisé. C'est le début pour la zone B, la fin pour la zone C dont font partie les Parisiens. Attention au trafic, ce sera orange d'ailleurs dans les deux sens en région Auvergne-Rhône-Alpes, orange en Île-de-France dans le sens des retours justement. Ce sera compliqué pour ceux qui arriveront à Paris en venant de l'ouest. L'autoroute est fermée entre Paris et Vaucresson depuis hier jusqu'à lundi, au moins. Éric Berdoatier, le maire de Saint-Cloud, il craint un week-end de galère sur sa commune.
On a une chance folle, c'est que pour l'instant, ce sont les vacances scolaires et qu'il y a quand même pas grand monde dans la commune. D'abord, un, on confirme que ça va rester fermé ce week-end. Deux, la DIRIF va essayer d'organiser, vous savez, ils ont des panneaux d'information sur l'autoroute. Et donc, ils vont essayer d'organiser très en amont, c'est-à-dire à partir de Roquencourt et peut-être même au péage de Mantes-la-Jolie, une information pour que d'autres itinéraires puissent être pris, la 14, la 15, la Nationale 12 ou la N118, pour éviter d'arriver dans un goulot d'étranglement qui serait le pont de Vaucresson où là, l'autoroute est fermée.
Le maire de Saint-Cloud au micro Europe 1 de Martin Lange. Des bombardements entendus cette nuit en Irak. Une base militaire du centre du pays aurait été visée. Le commandement militaire affirme ne pas être à l'origine des frappes. Israël ne commente pas. L'Ukraine ne peut plus attendre face à la pression russe. Volodymyr Zelensky demande à l'OTAN de livrer le plus rapidement possible des armes. Le président ukrainien s'exprime à la veille d'un vote clé au Congrès américain. Une aide de 61 milliards de dollars attendu depuis plusieurs mois par Kiev. Depuis des mois, les Républicains bloquent cette aide, mais le président républicain de la Chambre des représentants a opéré un surprenant revirement et va proposer ce soir au vote une série de textes pour débloquer les financements à Vivafrid.
Oui, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, doit user de stratagèmes pour faire voter ses aides. Au lieu d'une seule loi qui engloberait tout, il a décidé d'en faire voter trois. L'une prévoit 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, notamment pour acheter du matériel militaire aux Américains. Mike Johnson ne veut plus tergiverser.
Franchement, je préfère envoyer des munitions en Ukraine que des Américains. Mon fils va commencer l'académie navale cet automne. C'est l'épreuve du feu pour moi, comme pour beaucoup d'autres familles américaines. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague.
Une autre loi accorde plus de 26 milliards de dollars à l'aide militaire pour Israël, ainsi qu'à l'aide humanitaire pour Gaza. Enfin, la troisième loi octroie 8 milliards de dollars à Taïwan. Un bricolage, mais qui permet de s'assurer le soutien de différentes factions. Les partisans d'Israël ne sont pas forcément les mêmes qui soutiennent l'aide à l'Ukraine. Pour faire passer la pilule, Mike Johnson a même prévu une quatrième loi visant à interdire TikTok. Pourtant, des parlementaires de sa majorité, fidèles de Donald Trump, ont annoncé qu'ils allaient essayer de le faire tomber comme son prédécesseur, ce qui pourrait plonger la Chambre des représentants encore plus dans le chaos.
À New York, un homme a tenté de s'immoler par le feu devant le tribunal où est jugé Donald Trump. Il a pu être sauvé des flammes avant d'être hospitalisé dans un état grave. La police a retrouvé des écrits complotistes près de lui. L'audience, elle, n'a pas été perturbée. Le jury est désormais au complet. Le premier procès pénal d'un ancien président américain entrera lundi, dans le vif des débats.
C'était le journal de 6 heures de Thomas Schnell.